Encore bienvenue dans cette émission. L'Union pour la Nation Congolaise, UNC en sigle, s'insurge contre la condamnation de son président Vital Kamerhe par la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, à 13 ans de prison. Au cours d'une réunion tenue à son siège de Kinshasa hier mercredi 16 juin, l'UNC annonce une série de manifestations pacifiques sur toute l'étendue du territoire national pour dénoncer l'acharnement politique dont serait victime son leader. Autre décision prise, la suspension de la participation des députés de l'UNC à toutes les réunions de CAP pour le changement CACH en sigle et de l'Union sacrée de la Nation. Quelle lecture faire des décisions prises par l'UNC ? Pourrait-elle avoir des conséquences sur la plateforme Union sacrée et les institutions dans lesquelles l'UNC participe ? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre ce soir. Et nous recevons donc dans cette émission Alfred Maïcha, il est député national élu de Bukavu, Sud-Kivu, et porte-parole de l'UNC en RDC. Bonsoir, honorable Alfred Maïcha.
Bonsoir, monsieur le journaliste, et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Professeur Jean-Claude Chilumba, il est député provincial et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Bonsoir, professeur Jean-Claude Chilumba.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir honorable Maïcha.
Et professeur Alphonse Maïndo, il est docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne à Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Bonsoir professeur Alphonse Maïndo.
Oui, bonsoir Guy Maté, bonsoir aussi honorable et bonsoir chers collègues.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Nous le disions dans les sommaires, l'Union pour la Nation Congolaise entend lever des options conformes à la loi en vue d'un partenariat politique qui l'amènera à obtenir à tout prix la libération de son président national Vital Kamerhe. C'est dans cette optique que la direction politique de l'UNC recommande aux gestionnaires du parti de s'engager résolument dans cette voie. Ceci est contenu dans la déclaration publiée hier mercredi à l'issue d'une réunion extraordinaire convoquée au lendemain du jugement en appel condamnant son leader à 13 ans de travaux forcés. Billy Ivan Lutumba pour le détail.
Dans ses déclarations, l'UNC manifeste son regret dans ce qui transparaît comme insouciance du président de la République, malgré des appels incessants auprès de lui pour que Vital Kamerhe bénéficie d'un procès équitable. Ceci partant de ses prérogatives en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Billy Kambale, secrétaire général UNC.
Nous devons d'abord nous dire des vérités en face. Il y a un complot contre notre chef que nous ne pouvons jamais accepter. À Nairobi, nous avons signé un accord devant le monde entier. Qu'est devenu cet accord?
On ne peut pas sacrifier un leader comme Vital Kamerhe pour des besoins de calculs politiciens.
Qu'on nous libère notre chef.
Qualifiant le verdict en appel d'inique et injuste et en attendant l'aboutissement des discussions à l'interne, l'UNC demande aux élus du parti à tous les niveaux de suspendre leur participation aux activités politiques du CACH et de l'Union sacrée.
Nous sommes un parti né de la résistance. Ces unions qui se conçoivent à tout bout de champ sont des plateformes circonstancielles qui peuvent basculer à tout moment. Pour nous, l'essentiel, c'est que notre chef quitte cet état des choses.
Signalant que cette réunion de mercredi a rassemblé presque toute la crème de l'UNC occupant des fonctions à la présidence, au gouvernement, à l'Assemblée nationale et dans les entreprises publiques, tous s'engagent à mener une opposition farouche contre l'injustice.
Merci à vous, Billy Ivan Lutumba. Alfred Maïcha, je rappelle que vous êtes député national élu de Bukavu, Sud-Kivu, et porte-parole de l'UNC en RDC. D'abord, on sait que l'UNC, naturellement, rejette les verdicts de la cour d'appel de Kinshasa Gombe, qu'elle qualifie de parodie de justice. Alfred Maïcha, quels sont les éléments sur lesquels vous fondez votre argumentaire?
Oui, monsieur le journaliste. Pour l'UNC, l'ensemble du peuple congolais, Vital Kamerhe n'est pas condamné. Il est plutôt pris en otage par des forces obscures que nous dénonçons maintenant, qui utilisent les instances judiciaires pour des règlements purement politiques. Vous vous en doutez, monsieur le journaliste, l'opinion nationale et internationale le retiendra. Le président Vital Kamerhe a répondu à une invitation du parquet. Alors qu'il avait déjà fini à être entendu, le magistrat instructeur lui avait même déjà dit au revoir. Il reçoit un coup de fil. ce magistrat-là. Il se retire, il communique. Et il dit, ah, si le Birkav est encore là, qu'il attende un peu. À l'issue de ce coup de fil, et pendant qu'il ne l'a pas encore fini, le Birkav qui ne se reprochait de rien a dit attendre. Quand il finit la communication téléphonique, il lui dit, désolé, tu ne pars plus. Tu vas à Makala. Il dit, ah bon, qu'est-ce qui a changé? Oh, je n'ai pas à m'expliquer pour l'instant, mais tu vas à Makala. Donc, nous réaliserons que c'est un coup de fil qui vient de faire ordonner son arrestation, mais le magistrat lui-même n'est pas convaincu de ça. Au premier degré, tout le monde l'a suivi. D'ailleurs, le jugement est sorti dans les réseaux sociaux 2 heures avant son prononcé. Et on a trouvé que cette composition a suivi une pression énorme. Au second degré, c'est flagrant. Les juges étaient tout le temps au téléphone. Même au moment où il est en train d'instruire, il est au téléphone. Et chaque fois qu'il était au téléphone, il changeait d'attitude. Et la procédure était bloquée à ce niveau. Nous avons toujours dénoncé cet état de choses. Figurez-vous, monsieur le journaliste, qu'un magistrat récusé refuse de lâcher les dossiers. Nous avons dit, mais tiens, qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier? Nous n'avions jamais imaginé que nos alliés y étaient pour quelque chose. Ça, nous l'avons jamais dit.
Et donc, cela voudrait dire que l'UNC, en appel, s'attendait à un acquittement pur et simple de son leader?
Mais il n'y a rien, c'est le journaliste. Vous ne pouvez pas poursuivre quelqu'un pour détournement des choses que vous voyez. Mais les maisons préfabriquées sont là. Au moins au premier degré, Jamal disait, allez voir là où il y a vos maisons, de part et d'autre, on croyait qu'il s'amusait. Mais au second degré, c'est le journaliste. Aucun cas si les maisons sont là. Tous les co-débatteurs le savent, le peuple congolais le voit. Un journaliste de haute facture de la ville de Kinshasa a fait des enquêtes indépendantes, a trouvé les maisons. Nous avons produit au dossier des procès-verbaux des huissiers, des actes authentiques qui démontrent effectivement l'existence des maisons préfabriquées dans les différents ports. Les États partenaires concernés, la Tanzanie, l'Ouganda, l'Angola, pour ne pas les citer, ont écrit à la République démocratique du Congo pour leur dire vos marchandises sont ici. Mieux que ça, monsieur le journaliste, le gouvernement Yinkamba a reconnu l'existence de ces maisons.
Voilà, on comprend votre réaction, mais à ce stade, les dés ne sont pas jetés. Hein. C'est vrai que les voies de recours ordinaires sont épuisées, mais les avocats de M. Kamere ont encore la possibilité, n'est-ce pas, de se pourvoir en cassation, en saisissant, par exemple, la Cour de cassation. Et est-ce que vous envisagez de recourir à cette voie, à l'UNC? Et si oui, pourquoi ne pas attendre l'issue, n'est-ce pas, de cette démarche avant de prendre des décisions telles que la suspension de participer à toutes les réunions des caches et de l'Union sacrée de la Nation, et ainsi que l'organisation des marches pacifiques? Pourquoi vous ne patientez pas, vous n'attendez pas?
Oui, les avocats feront leur travail. Et nous, comme UNC, nous sommes politiques et nous faisons les nôtres. La conviction que nous avons, c'est que le procès est politique. Parce que tous ceux-là qui appelaient ces magistrats et qui leur font changer de position, ils ne sont pas que magistrats. Et qui ne vous dit pas que les mêmes coups de téléphone peuvent continuer jusqu'à la Cour de cassation. Et à ce moment-là, nous aurons été naïfs. Nous n'avons jamais demandé au chef de l'État de demander l'acquittement de Vital Kamerhe. Non. Nous lui avons demandé, en sa qualité de magistrat suprême, d'utiliser les prérogatives constitutionnelles à sa disposition, qui, en tant que garant du fonctionnement de toutes les institutions, y compris les institutions judiciaires, pour permettre à notre président d'accéder à un procès équitable. Nous l'avons rencontré plusieurs fois. En personne, et moi-même faisant partie de la délégation. Aucune fois il ne nous a dit qu'il n'était pas capable de le faire. Mais quand nous regardons, nous constatons qu'il ne l'a pas fait, qui peut et n'empêche, il pêche. Nous ne sommes pas habitués à une alliance, à une attitude hypocrite. Quand nous sommes d'accord, nous marchons ensemble. Quand nous réalisons que nous ne sommes plus dans la même vision, nous disons il y a lieu d'analyser l'espace, et quand on se rendra compte, effectivement, s'il n'y a plus d'autre voie de sortie, nous tirerons notre redevance.
Alors, qu'est-ce que vous voulez dire clairement lorsque vous dites que l'UNC entend lever des options conformes à la loi en vue d'un partenariat politique qui l'amènera à obtenir à tout prix la libération de son leader Vital Kamerhe.
Ça signifie que toutes les options sont ouvertes. Partout, on sent que la préoccupation sur la situation de Vital Kamerhe est partagée ensemble avec n'importe quel autre partenaire, eh bien nous serons avec lui. Et partout où nous sentirons qu'on s'amoque, eh bien nous reculerons.
Ça pourrait intervenir à quel moment? Les décisions, les grandes décisions, les options fondamentales pourraient être levées à quel moment?
Bon, vous savez, le parti, ce n'est pas le secrétaire général. Le camarade de Billy Kambal, dont j'apprécie la qualité du courage, ce n'est pas le porte-parole. Ce sont tous les organes qui sont constitués. Et donc, nous sommes en train de nous concerter en interne avec le président national, nous contacter également les partenaires de part et d'autre. Nous suivons également la voie de la base, parce que c'est à cause de la base que nous avions demandé au président Vital Kamerhe de retirer sa signature sur l'accord de Genève. Et donc, le moment que nous aurons recueilli tous ces éléments nécessaires, nous prendrons la position qu'il faut prendre. Nous nous concertons également avec tous nos mandataires au gouvernement, tous nos mandataires au cabinet du chef de l'État et dans les entreprises, pour que la décision à venir soit une décision concertée et qui rencontre les points de vue des uns et des autres, parce que pour nous, la liberté du président Vital Kamerhe, c'est l'objectif principal de tout partenariat politique que nous puissions envisager à ce moment. On ne peut pas laisser un leader comme Vital Kamerhe rester en otage quand on veut protéger un poste au gouvernement ou au cabinet du chef de l'État ou à l'entreprise. Non, ça c'est ignorer ce que représente Vital Kamerhe. Et quiconque de nos mandataires s'y hasardera aura signé son départ politique.
Et les décisions qui sont envisagées, n'est-ce pas, au sein de l'UNC, pourraient avoir quelle implication sur le plan politique? Est-ce que l'UNC peut aller jusque à mettre un terme à son alliance avec son allié principal, l'UDPS, et par conséquent quitter l'Union sacrée de la nation?
Ce n'est pas exclu.
Merci beaucoup, Monsieur Alfred Maïcha. Professeur Jean-Claude Tchulumbaï, je rappelle que vous êtes député provincial et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Et d'abord, comment vous réagissez au jugement de la Cour d'appel condamnant Vital Kamerhe à 13 ans de travaux forcés?
Oui, je rappelle aussi, Guy, que je suis avocat et qu'en cette qualité-là, je suis extrêmement gêné de devoir commenter un arrêt de la Cour intervenu dans un procès qui, dans l'une de ses parties, avait été rendu public et que toute notre population l'a suivi et que la Cour, dans ses pouvoirs souverains, s'est prononcée. Et dans la culture républicaine qui est la mienne, mais aussi en cette qualité d'avocat, je m'incline devant le verdict de la Cour. Je voudrais tout simplement ici d'emblée noter à la bonne intention de l'honorable Maïcha que les magistrats instructeurs, lorsqu'ils instruisent pour nous qui avons la culture de parquet et l'habitude de parquet, et que lorsqu'ils ont clôturé, ils prennent toujours soin de se concerter avec le procureur au nom de qui ils instruisent et que cette concertation, il n'est pas exclu qu'elle le soit par téléphone pour probablement imaginer que ça n'ait pas été avec le procureur que le magistrat s'est concerté. Si cela était le cas, tel qu'il l'expose, qu'il ne justifie forcément pas que ça soit une instruction d'ordre public. Moi, j'avais plutôt pensé que depuis le début de ce procès, l'honorable Vital Kamerhe, qui est un homme que moi personnellement j'admire beaucoup, devrait prendre très au sérieux sa défense, notamment très bien organiser ses équipes. Bon, il sait lui-même comment il l'a fait. Je ne peux pas condamner la manière dont les avocats ont fait leur travail, qui a été un travail fantastique, entre autres. Mais ici, la question la plus importante que j'entends là, c'est celle de dire que le chef de l'État a notamment brillé par l'insouciance, que le chef de l'État devrait user de ses prérogatives constitutionnelles, lesquelles lui permettraient de faire tout ce qui était en son pouvoir pour tantôt obtenir la liberté de l'honorable Vital Kamerhe ou pour tantôt obtenir que le procès soit le plus équitable qui soit. c'est une lecture abjecte, une lecture pas propre de la chose politique telle qu'elle se vit et de nos institutions telles qu'elles se doivent de fonctionner, notamment notre Constitution de la République, qui oblige en ces articles 151-152 qu'il ne soit pas possible que lorsque une institution judiciaire instruit, qu'une autorité exécutive, chef de l'État, qu'elle soit, puisse s'en mêler. Et donc, demander cela à un chef d'État pour un allié qui a signé un accord de gouvernance avec ce même chef d'État et lequel accord prévoyait clairement et strictement que la victoire à obtenir à l'issue de la campagne était destinée à l'installation d'un État de droit. C'est une manière, on ne peut plus claire, de se faire harakiri. Et donc ici, moi j'estime, je félicite notamment le chef de l'État qui, malgré les diverses pressions de son allié ou de ses alliés, se réservait de se mêler de manière tout à fait honteuse dans l'instruction judiciaire par respect pour la République et les principes qu'elle incarne, mais aussi par respect pour notre loi fondamentale. Donc, il est de notoriété publique que son président a démontré désormais qu'il peut incarner les espoirs des Congolais et principalement à sa promesse de l'instauration de l'État de droit.
Professeur Tshilumbayi,
oui.
C'est vrai que vous n'êtes pas le juge qui a pris cette décision et vous avez évoqué le fait que vous vous sentez un peu embarrassé, n'est-ce pas, de commenter les décisions de la justice. Mais ici, on voudrait avoir votre point de vue en tant que professeur d'université. Et qu'est-ce qui peut, à votre avis, justifier le maintien en détention de Vital Kamerhe? Et à partir du moment où son dossier semble avoir évolué avec ces maisons préfabriquées qui, selon certaines sources, existent, les maisons sont là, on peut les voir. Et or, Vital Kamerhe avait été accusé d'avoir détourné les fonds destinés justement à l'achat de ces maisons. Mais dès lors que les raisons pour lesquelles il a été condamné n'existent plus, pourquoi ne pas l'acquitter et donc le libérer comme le souhaite son parti politique, l'UNC?
Je voudrais noter que le procès Vital Kamerhe n'est pas un procès civil, plutôt un procès pénal. Dans un procès civil, le juge statue sur base d'un contrat judiciaire lui présenté par les parties et statue pièce contre pièce. Dans un procès pénal, par contre, le juge statue sur base de preuves diverses qui peuvent lui être présentées, lesquelles preuves sont du reste libres, et que ici, ce qu'on sanctionne dans un procès pénal, ce n'est pas forcément le fait accompli. Le juge pénal sanctionne aussi la tentative de consommation de l'infraction et que lorsque l'infraction a été déjà commise ou elle a été consommée, ce que le juge pénal sanctionne, ce n'est pas la matérialité des biens utilisés pour consommer l'infraction, les résistances ou non-existences. Le juge pénal sanctionne plutôt l'exemple mauvais, le mauvais exemple qui a été donné à la société. Je suis également mal à l'aise, moi, de pouvoir dire que Vital Kamerhe ait été condamné pour fait d'absence de maisons préfabriquées au Kantchatch, en tout cas du moins pour le procès que nous avons suivi publiquement. Le verdict du juge, du premier notamment, ne s'était pas fondé sur le seul élément que ces maisons n'existaient pas au Kantchatch. Bien évidemment, la qualification de l'infraction a été tirée de la gamme d'intentions et des actes aussi matériels que moraux qui ont été posés dans la commission du forfait. À ce jour, je ne suis même pas moi le juge, malheureusement, je n'ai pas l'intention de tenter de croire que la simple présence de ces maisons au Kantchatch, qui du reste ont existé pendant la première instance, parce que l'un des co-accusés de l'honorable Vital Kamerhe, M. Diamal, avait souvent clamé que ces maisons existaient au Kantchatch, mais ça ne résorbait pas le problème que le juge soulevait, entre autres celui de détournement de deniers publics ou de complicité de ce détournement. Donc, je suis loin de penser que le fait soit d'avoir commis d'abord un forfait qui a été défini comme infraction, qui soit constitué par le détournement ou la soustraction frauduleuse d'un bien, et que de retourner ou de réparer par la suite matériellement ce qui a été posé et qui a constitué l'infraction éteindrait une telle infraction. Je ne me l'imagine pas cette fois-là, comme vous avez dit, comme juriste, mais je reste bien mal à l'aise, moi, de commenter le verdict du juge, d'analyser ou de commenter les motivations du juge, d'analyser l'orientation que le juge a dû prendre, encore que l'honorable a bien souligné qu'il y a encore cette autre possibilité, la cassation, parce que si les procédures avaient été biaisées et que l'application des normes suivies par le juge n'a pas été strictement rigoureuse, le juge de cassation est exactement situé pour ce faire, que l'honorable Vital Kamerhe a encore cette possibilité de se pourvoir et voir l'éventualité que le jugement du deuxième juge, qui est un jugement définitif par ailleurs, soit ainsi cassé.
Et quelle lecture vous faites des décisions prises par l'UNC pour obtenir, selon elle, à tout prix, la libération de son leader Vital Kamerhe? Vous avez suivi le député Alfred Maïcha, qui est porte-parole de l'UNC, qui affirme qu'aucune option n'est à écarter.
La liberté de l'honorable Vital Kamerhe n'est pas possible en cette étape précise, du moins dans l'orientation judiciaire qui est celle de notre pays, parce qu'il reste dans la situation dans laquelle le juge l'a placé, qui est une situation définitive par ailleurs, dans ce sens qu'il est libre cette fois-là de se pouvoir en cassation ou pas. Les seules possibilités qui peuvent exister, qui ne soient pas d'ordre judiciaire à ce jour, se trouve être la liberté conditionnelle ou la grâce présidentielle, et que cette fois-là, il est de bon aloi que si c'est celle-là que l'UNC réclame au chef de l'État, qu'il l'exprime de manière tout à fait claire, qu'il dise au chef de l'État qu'il formule un vœu de le voir exercer ses prérogatives constitutionnelles d'octroi de la grâce, encore qu'elle n'est pas automatique, elle est aussi sujette à des procédures qui requièrent que la loi, elle aussi, soit respectée dans l'acte que poserait le chef de l'État. Mais que de vouloir, à cette étape d'instance, incriminer ou vouloir impliquer le chef de l'État et souhaiter qu'il aurait bien voulu ou qu'il ferait mieux d'interférer dans l'instruction judiciaire et lui-même ainsi d'engendrer ce qu'on viendrait à qualifier de haute trahison, je crois que c'est une attitude absolument irresponsable.
Alors là, on prend la dimension politique. Lorsqu'ils disent qu'aucune option n'est à écarter, qu'est-ce que vous comprenez par là?
Et que je connais l'UNC, l'honorable Vital Kamerhe, je connais l'UNC, un parti fondé sur des préceptes républicains qui ne s'est hasardé pour rien au monde de devoir mener des actions qui soient contraires au pacte républicain, parce que contre la justice, par essence, on ne marche pas lorsqu'on est républicain, on laisse la justice faire son travail en toute indépendance, et que si les actions politiques entreprises par l'UNC seraient des actions dirigées contre l'institution judiciaire, eh bien, ça pourrait construire une légèreté dans laquelle aucun Congolais n'espère voir l'honorable Vital Kamerhe se mêler.
Merci, professeur Alphonse Maïndo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne à Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Et quelle analyse vous faites du verdict de la Cour d'appel réduisant la peine de Vital Kamerhe de 20 à 13 ans?
Oui, merci beaucoup. Je voulais faire quelques petits commentaires d'abord avant de dire ce que moi je pense personnellement de ça. D'abord par rapport aux commentaires sur les jugements, etc. Donc je pense qu'on a bien le droit de commenter les jugements et les arrêts des cours des tribunaux. Et c'est ce que fait la doctrine. La doctrine juridique, c'est son boulot, c'est de commenter justement pour apprendre, donner des leçons aux étudiants. C'est ce qu'on fait. Et nous, dans les facultés, c'est ce qu'on enseigne aux étudiants, à pouvoir développer leur capacité d'analyse, d'interpréter les jugements pour après donner des leçons pour dire là, il y a eu un mal jugé, il y a eu ceci, tout ça. Donc cela ne veut pas dire qu'on remet le travail du juge en question, mais on voudrait plutôt aider à une meilleure compréhension de la question du droit. Alors, je pense que la question du détournement des fonds, ça, le procès l'a montré qu'il y a eu quand même des faits qui tendent vers un détournement, mais la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi il n'y a qu'une partie des acteurs impliqués, parce que lorsqu'on parle de détournement ou de choses, il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués. Et plusieurs acteurs ont été justement cités, y compris nommément par les principaux accusés, en l'occurrence Vital Kamerhe et Jamal, Mais ces gens-là n'ont jamais été inquiétés, n'ont jamais été interpellés ou mis aux arrêts. Et partant de là, et c'est comme ça que je comprends, si vous voulez, un peu le ras-le-bol et la colère des partisans de Vital Kamerhe, de dire, voilà, il y a une justice qui est donc à la botte, à la solde d'une partie de la classe politique. Et quand il s'agit de cette question-là, on se dit, à qui profite le crime? Et quand on se pose cette question, à qui profite le crime, on voit bien où le regard nous conduit. Le regard nous conduit vers l'actuel président de la République et sa formation politique. Et c'est pour ça que moi, je dirais que, d'une certaine manière, Vital Kamerhe est en train de payer son défaut d'analyse stratégique. Parce qu'on est bien dans ce qu'on appelle en science politique, parmi les pathologies du pouvoir. Il y a la convoitise, il veut avoir le pouvoir, parce qu'il y a eu un accord, il veut être président en 2023, etc., parce qu'on a dit ça. Ils ont signé l'accord à Nairobi autour de ça. Et il a manqué d'intelligence pour se comporter comme un vrai dauphin, mais il s'est plutôt comporté comme un requin. Voyez-vous, je vais vous expliquer si vous voulez, parce que je me réfère ici aux travaux de Lynch et de Cordis, qui ont écrit un bel ouvrage qui s'appelle donc la stratégie du dauphin. Donc, le fait qu'il se soit comporté un peu comme, si vous voulez, un vice-président, un peu comme un procureur, et donc ça a mis mal à l'aise son partenaire, et qui voyait d'un très mauvais œil, si vous voulez, cet envahissement. Et donc, je pense que, et avec son entourage, ils ont dit, il faut vraiment trouver les moyens de faire ça. Et pour que ces moyens soient trouvés, eh bien, lui-même, il leur a donné un peu la possibilité de les faire, avec cette gestion de plusieurs millions de dollars de manière tout à fait pas très 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 orthodoxe, en violation des règles de comptabilité publique. Et donc, c'est sur ces plans-là qu'ils l'ont eu. Et donc, face à la stratégie du dauphin qui veut accéder au pouvoir, mais il y a la stratégie du chef. Le chef veut, lui, dans ce qu'on appelle l'intransmissibilité du pouvoir, cette pathologie-là, le chef vise l'immortalité. Il ne veut pas perdre le pouvoir. Il veut garder ça de manière pour toujours. Et il fait tout pour ça. Et je pense que Tshisekedi ne déroge pas à la règle. Il est comme tout autre homme, normalement constitué. Quand vous avez le pouvoir, vous avez envie de le garder le plus longtemps possible et de vous immortaliser au pouvoir.
En s'insurgeant contre cette décision de la Cour d'appel, l'UNC prévoit une série d'actions qui vont de la suspension de la participation aux réunions des caches et de l'Union sacrée de la Nation à des manifestations pacifiques. Après avoir organisé, n'est-ce pas, toutes ces manifestations, si réellement l'UNC arrivait à mettre sa menace à exécution, au cas où l'UNC n'arrivait pas à obtenir gain de cause, on peut s'attendre à quoi, professeur Alphonse Maindo?
Alors, à mon avis, ce qui pourrait arriver, c'est que sur le plan strictement politique et tout ça, il y aura pas beaucoup d'effets, puisque l'UNC n'a pas beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs, et donc son départ de la coalition Union sacrée de la Nation ne va pas beaucoup impacter en termes de décision, de manière directe. Mais dans la pratique, ça risque d'être, si vous voulez, un événement majeur. Pourquoi? Parce que tous ceux qui se sentent menacés d'une manière ou d'une autre par le comportement politique du régime en place aujourd'hui sous la conduite de son excellence, monsieur le président Tshisekedi, risquent donc de se braquer et de faire bloc contre lui et son camp pour reprendre le contrôle du voyez-vous, il y a eu donc l'accord de Genève qui a été foulé au pied, qui n'a pas été respecté. Il y a eu l'accord avec les FCC qui a été foulé au pied, qui est tombé. Et là, l'accord de Cash de Nairobi qui est en train de voler en éclats. Et quand on regarde également, c'est une union sacrée qui elle-même aussi commence à faire des fissures avec cette loi ignoble qui est en train d'être, si vous voulez, porté sous la place publique par un certain monsieur, et qui viserait ainsi, donc, à éliminer certains poids lourds. Je pense notamment à Moïse Katumbi. Et donc, on voit bien que tout ce monde-là, les FCC ensemble, les MLC, et tout ce monde-là, avec l'UNC, pourrait faire un bloc. Et là, à mon avis, ça peut vraiment faire mal.
Merci, merci. Et nous allons écouter aussi le point de vue des auditeurs qui sont en train d'appeler pour réagir à ces sujets. Honorable Alfred Maïcha, vous allez réagir à cette réflexion de cet auditeur qui est en train de nous appeler du Kassai Central.
Jean-Pierre Passon, midi, ami Kalaï au Kassai Central. À mon avis, la déclaration du secrétaire général de l'IMC après la condamnation de son leader n'est qu'un sentiment politique pur et simple. À telle enseigne que dans un état de droit, tout le monde est censé répondre à la justice sans tenir compte du rang social ou de son poste. À la lire où vont les choses, les membres de l'IMC qui sont au pouvoir ne sont là que pour servir le peuple congolais et non pas suivre les déclarations inutiles qui n'ont pas d'intérêt commun. Parce que dans un passé récent, quand Kamere avait quitté Joseph Kabila, tous ses alliés n'avaient pas obtempéré au mot d'ordre. C'est le même scénario qu'on aura à voir d'ici peu. Qui vivra, verra.
Alfred Maïcha, votre réaction?
Oui, en répondant à cet auditeur, nous disons que, en même temps, je rencontre le collègue et confrère d'ailleurs, parce que moi-même je suis plaideur, celui de l'IDPS. Nous n'avons jamais demandé au président de la République d'interférer dans les missions juridictionnelles. Non. Mais le rôle de réguler le bon fonctionnement des institutions, y compris les institutions judiciaires, relève du chef de l'État. C'est sa mission à lui. Les lui rappeler, ne l'invite pas à violer aucune loi du pays. Et nous lui avons demandé d'utiliser ce pouvoir à disposition uniquement pour permettre à notre président d'accéder à un procès équitable. Cela est clair, cela parfait. L'impression que ça nous donne à suivre ce qui se passe, c'est qu'apparemment, même en initial, la commande des maisons préfabriquées, apparemment on n'avait pas besoin de maisons. Mais on voulait un guet-apens pour se débarrasser des acteurs politiques gênants.
Et donc, on aurait piégé M. Vital Kamerhe.
Le président de la République lui-même, s'adressant à la nation congolaise, lors de son tout premier discours à la nation, a dit devant les deux chambres réunies qu'il a commandé les maisons préfabriquées. 2000 pour l'armée, ce qui était une bonne chose, et 1000 pour la police, ce qui était une bonne chose. Le président de la République se plaint lui-même du fait que la chaîne de dépenses ne mettait pas de la diligence nécessaire pour décaisser les fonds pour matérialiser cette commande. Le président Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus que d'écrire au ministre du Budget, que d'écrire au ministre des Finances, que d'écrire à la Banque centrale pour leur demander de suivre le mot d'ordre du chef de l'État en liquidant et en payant les fournisseurs dans le cadre de 100 jours. Comment imaginez-vous que celui qui représente la République démocratique du Congo a fait procès, ni qu'il n'existe pas un contrat entre la République et M. Jamal, et retienne que la lettre que le président de la République, le directeur de cabinet a écrite à tous ces ministres-là, est un élément de criminalité qui l'associerait à une forme de complicité.
Alfred Baïcha,
alors que le président de la République en avait copié.
Alfred Baïcha, on n'aura pas l'état de revenir sur le déroulement de ces procès, mais vous avez suivi le procès Jean-Claude Kilumbaï, cadre de l'IDPS, qui estime qu'il y a encore d'autres possibilités parmi lesquelles solliciter la grâce présidentielle. Est-ce que vous pouvez saisir cette occasion pour solliciter la grâce présidentielle?
Monsieur le journaliste, nous avons compris le message nous lancé par les partenaires. Parce que la grâce présidentielle empêche l'exécution de la peine. Elle efface la peine, mais elle n'efface pas la condamnation. Vous comprenez? Nous sommes assez éclairés pour comprendre ça. Donc, si c'est déjà un partenaire qui nous constitue nos partants, pourquoi nous devons rester avec lui? Il est vrai, nous ne l'avons pas chargé outre mesure. Mais il y a des éléments qui nous font poser des questions sur le pluralisme. Au premier degré, tous les collaborateurs du chef de l'État ont témoigné, non seulement contre Vital Kamerhe, mais surtout ont déchaîné une haine exacerbée contre lui. Ils n'ont jamais été reprochés. Tous les juges qui sont intervenus au premier degré ont été primés. Tous sont montés en grade jusqu'au greffier. C'est cela qui a incité justement ceux qui sont intervenus dans le dossier au second degré, sachant que ceux qui étaient au premier degré ont été primés. Ils n'ont pas voulu rater l'occasion, ils ont rendu
le même service pour s'attendre à ça.
Merci, donc, merci Alfred. On a compris, on n'aura pas tout le temps, n'est-ce pas, d'évoquer tous ces aspects de ces procès. Et professeur Jean-Claude Tiloumbaï, vous allez aussi réagir à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Bukavu, au Sud-Kivu.
Jonathan Zonga, depuis Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. La décision prise par le directoire politique national de l'UNC est une conséquence de ce que représente Vital Kamerhe est dans les caches. Il est considéré comme un allié gênant et un véritable adversaire pour les échéances à venir. La décision prise permet à l'UNC de s'assumer. Soit elle reste au pouvoir en refusant d'indexer son allié, soit elle quitte le gouvernement tant national que le gouvernement provincial et dans les entreprises publiques pour exprimer son ras-le-bol vis-à-vis de son allié.
Oui, professeur Jean-Claude Tiloumbaï, je voudrais que vous puissiez réagir beaucoup plus à la première partie de cette réflexion. Cet auditeur qui nous appelle de Bukavu dit que Vital Kamerhe est considéré comme un allié gênant et un véritable adversaire pour les échéances à venir. C'est ce qui expliquerait, n'est-ce pas, ce qui lui arrive aujourd'hui.
Bon, d'abord, je note à l'intention du professeur que je rappelais qu'en dehors de mon statut d'enseignant, moi je suis un avocat, j'ai une déontologie qui me guide et qui m'interdit de le faire, comme je l'ai dit là, et donc il n'y a pas de loi qui me contraigne de faire ma doctrine sur les décisions judiciaires, je suis un avocat. Je rappelle aussi à l'honorable que l'obligation de témoigner pour un citoyen congolais et la défaillance dans le témoignage sont des paramètres régis et réglementés par la législation pénale de notre pays. Il n'est donc pas de contrainte pour un citoyen qui est requis à déposer son témoignage après d'ailleurs avoir prêté serment de dire la vérité et rien que la vérité, de s'exposer aux sanctions du fait de ne pas témoigner ou de présenter de mauvais témoignages. Donc, il serait de mauvaise loi de considérer que du fait qu'un proche du chef de l'État aille déposer contre l'honorable Vital Kamerhe, cela impliquerait donc que ce soit le chef de l'État et sa famille politique qui ont cogité l'idée que Vital Kamerhe se retrouve dans des conditions douloureuses que nous déplorons par ailleurs, nous tous à ce moment, de voir cette personnalité encore utile à la République se trouver ou se représenter dans ces conditions-là.
Et par rapport à la réflexion, à la réflexion de l'auditeur de Bukavu, parce qu'on n'a pas tous les temps.
Je note que Vital Kamerhe n'a jamais été un allié gênant. L'opinion se souviendrait même de ce discours qu'on a semblé imputer au chef de l'État pour considérer qu'il avait sorti ce mot pour dédouaner son directeur de cabinet. Il n'y a pas de preuves supplémentaires à présenter pour démontrer comment le président Tshisekedi a tant aimé Vital Kamerhe, en l'occurrence lorsqu'on a soulevé cette question de 15 millions de dollars. Donc, si le président Tshisekedi avait besoin de se débarrasser de Vital Kamerhe, qui en rien d'ailleurs ne constituait ou ne constitue une menace pour lui, il aurait fait dans bien d'autres circonstances que dans celle-là. Ici, il est question de considérer que, avec notre allié, l'UNC, avec notre allié, l'honorable Vital Kamerhe, nous avions entre autres convenu de conquérir le pouvoir de l'État afin d'asseoir le vœu pieux que nous avons ensemble exprimé, celui de bâtir un État de droit et non celui de nous représenter en prédateur de deniers publics. Et cela, lorsqu'on dit État de droit, c'est que c'est aussi cette possibilité de libérer totalement le sacré métier du juge pour que lorsqu'il inscrive, qu'il n'y ait pas ces interférences.
Merci, professeur. Professeur Alphonse Maïndo, vous allez aussi réagir à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle de Kinshasa.
Espérance Jardel Ilunga Bayamba depuis Kinshasa. Il est vrai que l'Union pour la Nation Congolaise, INC, s'insurge contre la condamnation de son président Vital Kamerhe, car on n'a pas compris comment il y a eu réduction de peine de 20 à 13 ans. Au lieu de maintenir les 20 ans, qui réellement Vital Kamerhe est nécessairement coupable. Tout ceci prouve à suffisance les tâtonnements de la justice congolaise, croyant être indépendante mais manipulée par la politique dans certains dossiers vides comme celui-ci. Par ailleurs, je demande à l'INC d'aller en cassation avant toute chose et de suspendre la participation des députés de l'INC à toutes les réunions du CACH et de l'Union Sacrée où ils peuvent dire, se dire la vérité.
Professeur Alphonse Maïndo.
Oui, évidemment, le fait simplement de voir la peine réduite en appel ne signifie pas que les faits ne sont pas établis. Ça peut vouloir dire que les juges d'appel, en âme et conscience, s'est simplement rendu compte que la peine qui était arrêtée en première instance ne correspondait pas à la gravité des faits qui sont reprochés ou établis vis-à-vis de tel ou tel justiciable. Et donc, sous le plan simplement des principes, on ne peut pas affirmer ça. Parce que même dans les pays où la justice est vraiment indépendante, il arrive que quelqu'un soit condamné en première instance et qu'en appel, il soit même acquitté. On a vu, par exemple, au niveau de la CPI, qu'il y a eu des gens qui ont été condamnés en première instance et en appel, ils ont été acquittés. Jean-Pierre Bemba est un exemple vivant. On a vu aussi avec Laurence Gbagbo, Charles Bécoudé, tout ça. Donc ça ne veut rien dire. Mais par contre, là où je pense qu'il a fondamentalement raison, c'est en termes de stratégie. Il y a déjà eu des erreurs stratégiques qui sont radicales, voyez-vous, qui ont conduit à la situation qu'on vit aujourd'hui. Parce que si Vital Kamerhe avait été un bon stratège, comme je le disais tantôt, un vrai dauphin, comme Anwar El Sadat en Égypte, qui avait fait semblant de ne pas avoir des ambitions, tout ça, etc. Et après, quand il est décédé, on lui laisse faire l'intérim pendant que les gens se préoccupent à faire la répartition du pouvoir. Lui, il modifie la constitution et il parle au peuple et il devient président. Il prend tout le monde de justesse. Et c'est ce qu'un bon dauphin doit faire. Et n'ont pas été trop pressés, sinon il vit ce que d'autres ont vécu avant lui. Avec si on voit ce que Mao a fait avec Lin Biao, il l'a finalement exécuté simplement. Exécution, ça peut être physique ou simplement politique. Et c'est ce qui arrive. Il faut bien penser, de part et d'autre, même les camps de l'Union Sacrée, les camps de l'UDPS, doivent avoir une vision claire. Parce que si on ne fait pas de bonnes décisions, ou on prend des décisions absurdes au sens de notre ami Christian Morel, voyez-vous, si on ne prend pas de décisions vraiment qui soient bien pensées, les conséquences pourraient être très très graves pour l'UNC, mais aussi pour l'UDPS et pour l'Union Sacrée de la Nation.
Alfred Maïcha, nous allons conclure. Les décisions que l'UNC compte prendre pourraient-elles avoir des conséquences sur la plateforme Union Sacrée et les institutions dans lesquelles l'UNC participe? Je rappelle ici que vous avez dit qu'aucune option n'est à écarter. Comment vous entrevoyez l'avenir, n'est-ce pas, de cette alliance UNC-UDPS au sein de l'Union Sacrée? Ça sera votre conclusion.
Non, il n'y a pas de mariage de vie ou de mort en politique. On est ensemble lorsque on a une vision commune. Si déjà nos amis pensent qu'état de droit signifie priver le droit de la défense à un leader comme Vital Kamerhe, alors ce n'est pas ça l'état de droit que nous avons convenu. Si état de droit signifie mettre en prison des innocents, parce que Vital Kamerhe n'a jamais signé, le ministre des Finances, Bébé, le ministre des Développement Rural, Chaké qui a signé avec M. Jamal, ils sont en liberté, ils n'ont jamais nié leur signature. Si c'est ça l'état des droits, nous on n'adhère pas à un tel projet de société.
Merci. Professeur Jean-Claude Tchiloumbaï, comment vous entrevoyez la suite de ces dossiers Vital Kamerhe au vu, n'est-ce pas, de l'évolution de la situation politique en RDC?
Non, nous devons rester attachés aux principes que nous avons ensemble établis, c'est ça la République, la Constitution. Nous avons notamment décidé d'aller en guerre contre tous les actes de corruption, et ça devrait le rester. Nous avons convenu qu'il fallait laisser la justice indépendante, ça devrait le rester. Mais quant aux conséquences politiques, elles ne peuvent pas manquer, elles peuvent bien être néfastes pour l'UNC elle-même ou l'être pour la coalition. Mais ce qui est le plus important ici pour nous, c'est que la justice de notre pays réponde aux desiderata de nos considérations générales, celles qui consistent à voir un jour son peuple jouir pleinement de son revenu. Et je souhaite toutes les bonnes choses et toutes les bonnes chances à l'honorable Vital Kamerhe pour la suite de ce combat.
Merci, professeur Alphonse Maïndo. Votre conclusion?
Ma conclusion, c'est que j'ai craint que cette condamnation définitive de Vital Kamerhe ne puisse avoir des conséquences assez graves. Mais si on veut réduire, si vous voulez, l'impact de cette décision, il faudra alors que les autres personnalités de tous bords, qu'ils soient de l'UDPS ou de l'Union Sacrée, puissent également être poursuivis et subir la rigueur de la loi. Je veux dire qu'il y ait une justice qui soit distribuée de manière équitable.
Merci, merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Polydor Basmunga qui était à la technique, merci à Kéline Kouté et Dona Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe. À la présentation, Guy Maté, merci et bon suite de programme sur Radio Capi.